Merci d'être à l'écoute de RFI, les 17h à Paris et à Bruxelles, 15h en temps universel et 18h à Beyrouth. Le journal vous est présenté par Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Dans l'actualité, Donald Trump a sans doute encore échappé à un tueur, le deuxième en 2 mois. Un homme armé a pu être maîtrisé alors qu'il s'était approché du golfe du milliardaire en Floride. Thierry Breton, le Français, quitte avec fracas la Commission européenne en pleine tractation sur la composition de la nouvelle équipe. Le commissaire au marché intérieur se dit désavoué par la présidente Ursula von der Leyen, à suivre dès le début du journal. L'Allemagne durcit sa politique migratoire. Elle a commencé aujourd'hui à rétablir des contrôles à toutes ses frontières au nom de la lutte contre l'immigration illégale. Après le passage de la tempête Boris, l'Europe centrale et orientale compte les morts. Au moins 15 victimes auxquelles s'ajoutent des milliers de sinistrés et d'immenses dégâts. Le Français Thierry Breton donc ne fera pas partie de la prochaine Commission européenne. Celui qui a été chargé de l'important portefeuille du marché intérieur claque la porte de l'exécutif européen. Thierry Breton accuse la présidente Ursula von der Leyen de l'avoir poussé vers la sortie. Un rebondissement inattendu et qui complique encore la rentrée de la présidente de la Commission, Julien Chavannes.
Ces deux-là ne s'aimaient pas beaucoup, tout le monde le savait, mais personne ne s'attendait à un divorce aussi explosif. Maintenant, Thierry Breton avait une place prépondérante dans la dernière commission, médiatique, politique. L'ancien ministre français était le commissaire le plus puissant, quitte à faire de l'ombre à sa présidente. Il avait été choisi par Emmanuel Macron pour un deuxième mandat, mais si l'influent Thierry Breton s'en va aujourd'hui, c'est à cause d'une gouvernance douteuse de la part d'Ursula von der Leyen, écrit-il sur les réseaux sociaux. Le Français accuse la chef de l'exécutif européen d'avoir poussé Emmanuel Macron à changer de candidat pour un portefeuille moins important. Emmanuel Macron a déjà proposé un nouveau candidat, Stéphane Séjourné, le ministre sortant des Affaires étrangères. Ce proche du chef de l'État connaît bien Bruxelles. Il a été président du groupe Renew au Parlement européen. Ce changement de casting à la dernière minute fragilise la France et Emmanuel Macron, désormais incapable d'imposer son candidat à Bruxelles.
Emmanuel Macron a donc proposé sans tarder l'un de ses proches, Stéphane Séjourné, une proposition dénoncé par la gauche et l'extrême droite pour qui le coup de force, je cite, le coup de force d'Emmanuel Macron se poursuit. Les autorités du Honduras ont promis que la justice serait faite après l'assassinat d'un défenseur de l'environnement. Juan Lopez avait 46 ans. Il a été tué alors qu'il se trouvait dans sa voiture dans le nord-est du Honduras. Il se battait notamment contre une exploitation minière installée près de chez lui dans une zone de montagne et de forêt. On en vient à cette nouvelle tentative d'assassinat de Donald Trump. Pour la deuxième fois, en 2 mois, il a, selon le FBI, de nouveau échappé à un tueur. Cette fois chez lui, en Floride, sur son terrain de golf, où le FBI a annoncé l'arrestation d'un homme armé, le candidat républicain à la présidentielle est sain et sauf. Au mois de juillet, il avait survécu par miracle à un tir qui l'avait blessé à l'oreille lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie. Les deux épisodes, toutefois, ne sont pas à mettre sur le même plan, selon un spécialiste des États-Unis, Laurie Enton.
Je vois ça beaucoup moins comme un problème de sécurité que l'incident
de ce qui s'est passé en Pennsylvanie, oui.
De Pennsylvanie, parce que là il y avait le problème principal, c'était le manque de communication et de coordination entre la police locale et le Secret Service. Là il y avait que le Secret Service qui a ensuite déclenché l'alerte, et donc la police locale a pu intercepter le suspect grâce à sa plaque d'immatriculation, oui, qui a été prise en photo par un témoin donc extérieur aux forces de sécurité. Donc là, ça a plutôt bien marché. Il n'y a pas eu de tentative d'assassinat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de tir, et le suspect a été arrêté sans faire d'histoire assez rapidement. Donc cette fois-ci,
ça a été anticipé.
Il y a eu une volonté de tirer sur Trump, mais ça a été enrayé.
Lorik Enton, interrogé par Nathalie Amar dans RFI Matin. Et puis parmi les réactions à cette nouvelle tentative, celle de Joe Biden et de Kamala Harris, le président et la vice-présidente des États-Unis se sont dit soulagés que leur adversaire soit sain et sauf. Au Canada, la popularité du Premier ministre Justin Trudeau bat de l'aile. Ce lundi, 2 élections partielles pourraient le mettre en difficulté face à Pierre Poilievre. C'est son adversaire conservateur, d'ailleurs souvent comparé à Donald Trump dans le style. À en croire les sondages, les libéraux au pouvoir pourraient perdre une circonscription de Montréal qu'ils détiennent de longue date. Il y a 2 ans, naissait pour les femmes iraniennes le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Mahsa Amini, jeune kurde iranienne, avait été arrêtée il y a 2 ans pour port incorrect du voile islamique et transférée à l'hôpital. Sa mort était annoncée quelques jours après. L'indignation s'était transformée en révolte nationale face à la mainmise des autorités sur la société. Aujourd'hui, Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix emprisonnée, appelle dans un message la communauté internationale à sortir du silence et de l'inaction face à l'oppression des femmes dans son pays. De son côté, le nouveau président iranien Massoud Pezeshkian tenait aujourd'hui sa première conférence de presse depuis qu'il est au pouvoir. À retenir de ses propos sans concession qu'il ne veut pas rencontrer son homologue américain et qu'il va renforcer ses capacités militaires face à Israël. Les précisions sur place de Siavosh Ghazi.
Le nouveau président iranien qui doit se rendre à New York dans les prochains jours pour participer à l'Assemblée générale des Nations unies a rejeté toute possibilité de rencontre avec le président américain. Ce sont les Américains qui nous ont imposé des sanctions, créé des bases militaires autour de l'Iran. Ils doivent d'abord montrer qu'ils ne sont pas nos ennemis, a déclaré le président Pezeshkian. Il a également affirmé que l'Iran se réservait le droit de répondre à Israël pour l'assassinat d'Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas, tué à Téhéran fin juillet. Il a aussi affirmé que l'Iran allait renforcer ses capacités militaires face à l'État hébreu.
Ils nous disent que nous ne devons pas avoir de missiles. D'accord, mais vous devez désarmer Israël. Si nous n'avons pas de missiles, ce sera comme à Gaza. Ils nous verseront des bombes sur la tête quand ils voudront. Et si à ce moment-là nous protestons, ils nous diront de nous taire. Nous avons besoin de la puissance militaire pour assurer la sécurité du peuple de notre pays.
L'Iran compte renforcer ses relations avec la Chine et la Russie, des pays amis qui sont restés aux côtés de l'Iran, confrontés aux sanctions américaines et occidentales, a ajouté le président Pezeshkian. Il doit se rendre fin octobre en Russie pour participer au sommet des pays du BRICS et devrait signer un accord de coopération stratégique de 20 ans avec la Russie à cette occasion. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
Il est 17h07 pile ici à Paris. L'Europe centrale et orientale compte les morts après le passage de la tempête Boris. Au moins 15 victimes, outre 7 recensées en Roumanie. L'Autriche a annoncé aujourd'hui 2 nouveaux décès. La police polonaise a pour sa part fait état de 4 morts dans les régions sinistrées. Boris a fait aussi des milliers de sinistrés et causé d'immenses dégâts encore difficiles à estimer. L'Allemagne donne un tour de vis à sa politique migratoire. Elle a commencé ce matin à rétablir pendant 6 mois des contrôles de police à l'ensemble de ses frontières au nom de la lutte contre l'immigration illégale. Des contrôles avec la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark. Ils vont s'ajouter à ceux déjà en place aux frontières avec la République tchèque, l'Autriche, la Suisse, également avec la Pologne. La Pologne où les contrôles aux frontières sont de particulièrement impopulaires. Reportage de Nathalie Versieux.
Francfort-sur-l'Oder est un peu la Strasbourg de l'est de l'Allemagne. Sur la rive ouest du fleuve Oder, la ville allemande, à l'est, sa moitié aujourd'hui polonaise, Słubice. Depuis la chute du mur, les autorités ont œuvré à un rapprochement entre 2 peuples que la frontière séparait presque hermétiquement du temps du régime communiste. Le rétablissement par l'Allemagne des contrôles aux frontières en octobre 2023 pour lutter contre l'immigration clandestine a permis de réduire les entrées de clandestins. Mais il a aussi de lourdes conséquences pour les populations, comme l'explique Andreas Oppermann, journaliste local pour la chaîne publique RBB.
C'est surtout un très gros handicap pour les gens de Słubice, parce que la ville est constamment complètement bouteillée. Mais aussi pour les habitants de Francfort, sur l'Oder, qui avaient par exemple des activités à Słubice et qui ont renoncé car ils ne peuvent jamais savoir s'ils arriveront à temps ou s'ils arriveront à rentrer chez eux. Les contrôles aux frontières sont une rupture dans tout ce qui avait été construit au cours des 20 dernières années entre les deux villes.
Sur les quelques 300 kilomètres de frontière entre la Pologne et l'Allemagne, ce sont partout les mêmes images. Circulation réduite à une voie et à 20 km/h sur les postes frontières des autoroutes, de colossaux embouteillages côté polonais, des travailleurs frontaliers exaspérés et des fédérations patronales inquiètes de cette brutale remise en question des accords de libre-échange européens. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Berlin a justifié sa décision de durcir les contrôles aux frontières. frontières en invoquant, je cite, la protection de la sécurité intérieure contre les menaces du terrorisme islamiste et de la criminalité transfrontalière. Enfin, c'était la grande soirée dédiée aux productions du petit écran. Los Angeles accueillait hier soir la cérémonie des Emmy Awards avec son lot de trophées remis à diverses productions, en particulier la série Shogun qui a reçu 18 récompenses dont celle de la meilleure série dramatique. Et bien voilà qui nous amène à vous m'en direz des nouvelles en compagnie de Jean-François Cadet. Jean-François, bonjour.
Bonjour et merci, c'était le journal de Gilles Moreau.